Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On dit souvent, comme pour se débarrasser du problème, que c'est le plus vieux métier du monde. Pourtant, la prostitution, loin des images toutes faites, est une grave violence faite aux femmes. À Toulouse et en Midi-Pyrénées, cette triste réalité existe comme partout ailleurs en France. Ce matin, je vous propose de nous plonger dans cette réalité pour tenter de mieux la comprendre et de mettre à l'honneur ceux qui se tiennent à leur côté. Alors, pour parler donc prostitution avec cette question toute simple, que faire ? Je reçois ce matin Catherine Hugonnet, vous êtes directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Arnaud, vous êtes directeur de l'Amicale du Nid de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et le frère Charles-Antoine Calraud, hein, c'est bien ça, vous êtes donc dominicain et vous êtes militant au mouvement du Nid, bonjour aussi.
Bonjour.
Au début de cette émission, je voudrais essayer avec vous de dresser un tableau de la situation. Alors évidemment, manier des chiffres en pareille circonstance, c'est toujours un petit peu délicat, mais néanmoins, il faut passer par là. Je lisais en préparant cette émission qu'il y avait à peu près 37 000 personnes prostituées en France, donc c'est dans 85% des cas des femmes, il y a aussi des hommes, il y a quelques personnes transgenres. Je me tourne vers vous, Jean-Luc Arnaud, est-ce que c'est à peu près les chiffres et est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus de prostitution? On imagine c'est en ville et puis est-ce que c'est à la hausse, à la baisse? Enfin, quel est l'état des lieux?
Alors pour parler chiffres, les chiffres que vous avez cités correspondent à peu près, sont à la moyenne de ce qu'on entend de façon générale sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que en fonction de qui les prononce, ça va de 20 000 à 80 000 à peu près, hein. Donc je pense qu'autour de 45-50 000 ça doit être à peu près dans la moyenne. C'est un phénomène en général qu'on réfère au monde urbain. Il s'avère que plus on travaille en dehors des villes, comme c'est le cas avec les services de l'État sur la région Midi-Pyrénées, plus on s'aperçoit que c'est une problématique qui est beaucoup plus répartie dans le territoire national, avec des disparités et des spécificités suivant les contextes. Et qu'effectivement, même si la précarité n'est pas à l'origine de la prostitution, la prostitution est favorisée par la précarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des personnes qui sont, et c'est le cas en France depuis très longtemps, dans des situations de vie difficiles, le recours à la prostitution peut être un moyen de survie, même si la précarité n'est pas la cause de la prostitution.
Donc, c'est-à-dire que dans les endroits en France où la situation économique est difficile, où les populations sont de plus en plus précarisées, la prostitution est plus importante?
Oui. Les personnes les plus vulnérables économiquement sont les personnes qui vont le plus avoir recours à la prostitution. Et on peut citer peut-être les personnes migrantes. Ne sont pas prostituées parce qu'elles sont migrantes, mais parce qu'elles sont dans des situations de vie difficiles. Les femmes qui sont en situation de difficulté parce qu'elles élèvent seules des enfants, par exemple aussi. On connaît plusieurs... il est souvent fait état maintenant de quelque chose qu'on qualifie de prostitution vivrière, qui n'est pas très jolie, mais qui signifie bien qu'il y a des familles monoparentales et souvent des femmes avec enfants, pour lesquelles le recours pour survivre, le recours à la prostitution est une réalité. Et les jeunes. Les jeunes qui, soit par banalisation avec des phénomènes de société qui banalisent un certain nombre de choses, mais soit par la banalisation de ces phénomènes de société, soit par une précarité et un isolement grandissant, ont recours à la prostitution.
Alors peut-être les jeunes, on en parlera tout de suite après. Pouvez nous dire, en fait, je ne sais pas, c'est une tendance qui est... Enfin, c'est une réalité, pardon, plutôt, qui est à la hausse, qui est à la baisse en France. Est-ce que le nombre de personnes prostituées c'est délicat à utiliser comme mot, mais est stable?
Comme indicateur, on peut peut-être prendre le nombre des personnes qui sont accompagnées par les associations, quelles qu'elles soient, qui est à la hausse. Dans toutes les associations qui s'occupent de personnes en situation de prostitution, le nombre de demandes augmente de façon très importante depuis plusieurs années. Si on prend les chiffres de l'établissement dont j'ai la responsabilité, en quelques années, le nombre de personnes rencontrées ou accompagnées est passé d'environ 300 à 450.
Et pourquoi, vous savez dire, ou c'est la faute à la crise économique ou...
Les situations... Alors, pour une partie du public très importante qui est accompagnée par les associations, il s'agit de personnes victimes de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Donc là, on fait référence plutôt à des personnes qui sont saisies ou qui sont obligées ou qui sont victimes de réseaux de traite dans le sens où des réseaux mafieux internationaux organisent leur migration à partir de leur pays d'origine, les font venir dans les pays les plus développés en Europe occidentale et les ayant trompés sur leur venue dans leur, ou manipulés ou les obligés à venir sur, dans les pays occidentaux, leur font valoir des dettes très importantes pour les frais de déplacement, entre guillemets, et donc les contraignent à la prostitution pour rembourser ces dettes, ces fameuses dettes. À titre d'exemple, des personnes originaires du Nigeria, par exemple, les réseaux de traite leur font valoir des dettes d'environ 40 à 50 000 euros pour être venus en Europe. Donc ça, c'est un élément important, même si ce n'est pas le seul, c'est un élément important puisque les personnes qui sont dans ces parcours de prostitution, qui sont d'une extrême violence, représentent environ 80 à 90% des publics que nous accompagnons dans les associations.
Alors c'est la question que j'allais vous poser, c'est, alors pardon, je vous donnerai la parole aux uns et aux autres après, hein, mais d'où viennent en fait toutes ces femmes, je lisais en préparant cette émission, c'est Europe de l'Est, Afrique, je sais pas, est-ce qu'il y a des pays particulièrement, est-ce que...
Alors, les pays qui sont qualifiés de pays sources pour les personnes, pour les phénomènes de traite, c'est des pays qui sont soit des pays d'une extrême pauvreté, donc c'est souvent d'anciennes colonies quand même qui ont été laissées dans un état lors de la décolonisation très défavorable, des pays instables, des pays riches mais non démocratiques ou non républicains. Je fais par exemple référence au Nigeria, qui est un pays qui est extraordinairement riche, mais où les inégalités sociales et politiques sont telles que de plus en plus de jeunes gens n'ont qu'une idée, c'est partir. Et partir par n'importe quel moyen. Et des pays qui sont des dictatures. Donc c'est les quatre grands types de pays qui sont pourvoyeurs. Et en définissant ça, on voit bien que dans l'ensemble du monde, ces types de pays, même si les guerres diminuent, d'après certains politologues, les situations d'instabilité chronique, si on prend l'exemple de la Syrie, de l'Irak, de la Libye et du Nigeria, sont des pays qui sont des pays pourvoyeurs ou des pays de passage pour les phénomènes de traite, ce qui explique aussi que ce nombre de situations augmente dans tous les pays occidentaux. Qu'il faut différencier, juste pour préciser, parce qu'il y a des confusions par moment, qu'il faut différencier des phénomènes de migration.
D'accord. Catherine Hugonnet, je me tourne vers vous pour Midi-Pyrénées et Toulouse. Y a combien de femmes ou combien de personnes qui se prostituent? Où sont ces personnes et qui sont-elles en fait?
Alors pour Midi-Pyrénées, qui est de nouveau, qui n'est plus la région actuelle, on va évoquer Midi-Pyrénées. L'Office national d'observation de la traite des êtres humains identifie à Toulouse environ 127 personnes subissant la traite des êtres humains. Et selon les chiffres des associations, c'est beaucoup plus, c'est entre 500 et 600. Alors ça, c'était il y a quelques années. Comme le disait Jean-Luc Arnaud, les chiffres augmentent. Donc aujourd'hui, vous faites l'augmentation et c'est donc plus.
Donc là, c'est pour Toulouse et pour le reste
de Midi-Pyrénées, on a beaucoup de mal à identifier la réalité des chiffres. Pourquoi ? Parce que la prostitution de rue en dehors de Toulouse n'existe pas, ou quasiment pas. Beaucoup de services sont encore dans le déni de l'existence de cette prostitution.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le déni de l'existence de la prostitution ?
C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Or, on sait qu'elle existe. Et parfois, les réseaux de traite sont démantelés. Ça a eu lieu dans le Tarn, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, où là, on se dit, ah oui, effectivement, ça existe. Mais dans la réalité, beaucoup de structures ne connaissent pas le système prostitutionnel et ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Donc on a beaucoup de mal à repérer la réalité des chiffres de la prostitution en Midi-Pyrénées.
Quand vous appelez ces structures, c'est-à-dire c'est quoi ces structures ?
Les structures, c'est par exemple à l'éducation nationale ou dans les universités. Personne ne repère le phénomène de prostitution de mineurs ou de pré-prostitution, on peut dire de conduite pré-prostitutionnelle. Puisque la prostitution, c'est non seulement monnayer, son corps, mais c'est également des services en nature. Et donc ça, c'est difficilement repérable si on n'a pas appris à le repérer. Les travailleurs sociaux, de la même manière, ont parfois du mal à repérer ces phénomènes quand ils accompagnent des familles ou leurs services à l'enfance, par exemple, qui peuvent avoir des mineurs qui vivent la prostitution. La police ne connaît la prostitution bien souvent qu'à travers les chiffres de la délinquance, c'est-à-dire des proxénètes et des réseaux de traite. Donc c'est une petite partie du phénomène. La police sait qu'il existe autre chose, effectivement, puisqu'aujourd'hui, les services sont organisés pour repérer les réseaux de traite à travers la cyberprostitution, ce qu'on appelle la cyberprostitution. Alors, mais on voit bien que ce phénomène est mouvant, que chacun a une lecture à partir d'un point de vue, et que l'enjeu, c'est de croiser ces points de vue pour avoir la réalité du phénomène.
Donc, quelques centaines de personnes à Toulouse, mais est-ce qu'il y a des estimations pour le reste? C'est quoi, quelques milliers de personnes en Midi-Pyrénées?
Je ne pense pas. Ce qu'on a pu repérer avec une étude faite avec une des associations qui existent sur Midi-Pyrénées, donc à travers une analyse de la prostitution qu'on a menée de 2013 à 2014, c'est que majoritairement, les sites dédiés ou d'autres sites non dédiés, mais sur lesquels on voit des annonces prostitutionnelles, ce qui est à l'extérieur de Toulouse est à peu près équivalent ou moindre que ce qui existe sur Toulouse.
On a envie de dire, c'est pas beaucoup pour Toulouse quand même. Tant mieux, hein, mais c'est quand même une grande ville. C'est-à-dire que, je sais pas, une très grande partie de la prostitution est par exemple à Paris ou en région parisienne.
La prostitution de rue, pardon, est peut-être plus visible à Toulouse et à Paris. Mais le phénomène d'invisibilité que je vous citais montre qu'on n'a que l'écume de la vague.
Voilà, c'est ça. Alors, l'autre chose en préparant cette émission, je voyais qu'en fait, l'essentiel de la prostitution aujourd'hui se fait via Internet. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? C'est-à-dire, c'est la partie immergée de l'iceberg aujourd'hui de la prostitution?
Tout à fait. Tout à fait, puisque en France, on repère des établissements à activité prostitutionnelle, ça c'est ce qu'on peut repérer, hein. Il y en aurait environ 600 et plus. Mais les établissements, de bar à hôtesse ou salon de massage, etc., ça c'est ce qu'on appelle des établissements. Mais un certain nombre de personnes se prostituent, soit chez elles, soit dans des hôtels. Et donc tout ceci, si on n'a pas des outils pour le repérer, eh bien on ne le connaît pas.
Jean-Luc Carnot, sur cette prostitution via Internet, c'est de fait un phénomène de plus en plus important. C'est aujourd'hui l'essentiel de la prostitution en France?
Alors, l'essentiel, je ne sais pas si on peut le dire, mais que ça soit un des versants de la prostitution qui soit en progression, oui, parce que un certain nombre de personnes organisées par les réseaux ou à titre individuel, hein, puisque c'est aussi une distinction, même si la prostitution, je pense, relève toujours de la même chose, je crois qu'il faut, nous, pour notre part, on tend à distinguer. On continue à distinguer tout ce qui est réseau de traite, d'exploitation sexuelle, où là, les gens sont vraiment contraints à des choses par tromperie, par obligation, par manipulation, tout ce qu'on veut. Des fois très jeunes, puisque nous accueillons des jeunes femmes qui ont entre 16 et 17 ans maintenant. Donc ça veut dire qu'elles sont parties du Nigeria ou de la Bulgarie, la Roumanie, à 14, 15 ans. Donc là, on est dans un contexte de traite. On continue à différencier ça, même si sur le fond, c'est à peu près la même chose, des personnes qui déclarent être dans des contextes de prostitution de leur propre initiative. Même si sur le fond, on pense qu'il y a toujours un aspect de soumission et de traite, malgré tout, l'organisation et après les moyens d'aider les gens sont relativement différents. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que quand on soit dans de l'organisation par les réseaux ou de la prostitution dite de leur propre initiative, l'Internet représente certainement pour les personnes, soit pour les jeunes, une manière de s'y lancer sans prendre de risque, enfin, en ayant l'impression de prendre moins de risques. En fait, ils s'aperçoivent rapidement que la confidentialité étant augmentée, les risques sont beaucoup plus importants. soit des personnes qui, pour échapper à l'ensemble des réglementations qui ont été prises par des villes, et notamment sur Toulouse, continuent l'activité prostitutionnelle en étant à l'abri des règlements qui leur interdisent d'être dans la rue pour se prostituer.
Alors là, on parle évidemment chiffres et généralités, mais pour essayer, avant de faire une première pause musicale, de comprendre en fait ce que ça représente comme réalité, frère Charles-Antoine Calreau, vous êtes, semble-t-il, un militant relativement récent. Vous avez découvert, si je ne me trompe pas, le monde de la prostitution il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? C'est un monde que vous ne connaissiez pas. Et puis, quel a été vos premiers contacts et surtout votre première impression? Vous êtes tombé de haut?
Oui, je suis tombé d'assez haut, effectivement. Puis, j'y allais aussi à reculons, parce que c'est un monde qui fait peur et on n'y va pas spécialement de gaieté de cœur. En un an et demi, ce que j'ai découvert, c'est deux lieux de prostitution sur Toulouse. C'est la place Belfort et ses environs et tout le quartier de Barrière de Paris. Sur place, ce sont à chaque fois, je pense, entre 50 et 60 personnes, majoritairement des femmes, mais pas exclusivement, qu'on peut rencontrer. Alors, de fait, ça exclut toutes les personnes qui se prostituent par Internet, et elles sont majoritaires, semble-t-il, ce serait plus de 62% des personnes prostituées en France. Pour les personnes que nous rencontrons, il semble aussi qu'il y a une grosse évolution au cours des dernières années, c'est l'augmentation des personnes étrangères. Il paraît qu'en 20 ans, on est passé de 30% de personnes étrangères à 90%.
Mais ma question, c'est davantage vous, quel a été votre sentiment pour donner quand même un peu de chair à tous ces chiffres? C'est-à-dire que vous ne connaissiez pas, vous y êtes allé à reculons, et quand vous avez découvert ça, qu'est-ce que vous êtes dit ou qu'est-ce que vous avez pensé ou ressenti?
À la fois, il y a peut-être un soulagement parce qu'on est bien accueilli par ces personnes, et qu'elles parlent avec nous, donc ça j'étais assez rassuré. Mais dans le même temps, il y a un vrai effroi. Plus on les connaît, plus elles parlent, et plus ce qu'on entend est vraiment très choquant et lourd à porter. Et puis c'est toujours dégoûtant de voir la situation dans laquelle elles sont. Enfin, c'est très choquant concrètement, par exemple, de voir une fille sortir d'une voiture, sortir d'une passe, de voir comme elles peuvent être sonnées par ce qui vient de se passer, de voir la façon dont les clients les regardent, dont la façon dont ils les alpaguent. Moi, ça me choque beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont très choquantes. Un exemple très concret, par exemple, c'est le fait de voir des femmes enceintes sur le trottoir.
J'avais jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais tout le monde la surnommait la reine, dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Elle se promenait dans le quartier depuis au moins 10 ans, côtoyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des doses et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver très dans le cœur. Les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule présence était comme un bombe sur leur plaie. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Que dit Polo, un chauffeur de taxi, elle aurait fui la guerre pour émigrer ici. Il y a de cela une couple de décennies, quand on fait son petit gars pis son mari. Est-ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie? C'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre triste éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Passé hier dans la nuit du 12 au 13, en sortant de son pick-up a eu comme un malaise. Près de chez elle, au métro du collège, on l'a retrouvée morte dans un banc de neige. On n'aura jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais ce matin, des gens pleuraient la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Mais au moins, elle a repris ses ailes pour partir vers un monde un peu moins cruel. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle vole quelque part où le ciel est bleu.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, nous parlons prostitution avec cette question toute simple. Que faire ? Donc avec nos invités, Catherine Hugonnet, qui est directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Jean-Luc Arnaud, directeur de l'Amicale du Nid de Toulouse, donc association qui intervient auprès de ces femmes. Et frère Charles-Antoine Calreau, qui est dominicain et militant au sein du mouvement du Nid. Alors, vous nous avez aidé à dresser un tableau de la situation en France et à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Puisque pour l'instant, je n'ai pas pris l'habitude d'élargir à la grande région, mais ça va venir, il est temps. Dans cette deuxième partie d'émission, je voulais faire un point avec vous sur la législation. Alors c'est pareil, ça paraît un peu technique, on reviendra dans des aspects évidemment beaucoup plus humains plus tard au long de cette émission. Mais peut-être faut-il rappeler quelle est la situation de la France. Alors on entend qu'il y a une proposition de loi qui a été débattue, pas encore votée tout au long de l'année dernière, mais pour commencer, j'ai lu, donc en préparant cette émission, vous voyez, moi j'ai appris beaucoup de choses, que la France en fait était abolitionniste. Alors, les maisons closes ont été fermées en France en 1946, et en 1949, donc la France a adhéré à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui des Nations Unies. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une position abolitionniste, Catherine Hugonnet ?
La position abolitionniste, mais je crois que Jean-Luc Arnaud précisera parce qu'il baigne dans ces affaires-là au quotidien, c'est de dire que les personnes prostituées ne sont pas des coupables. C'est un principe, les coupables sont ceux qui organisent le proxénétisme ou la traite des êtres humains. Alors, il y avait eu un bémol sur la disposition et la loi sur le racolage dans la rue. Donc, qui pénalisait de fait les personnes qui se prostituent dans la rue. Aujourd'hui, cette disposition a disparu de la législation, donc on revient à une posture majoritairement abolitionniste, on va dire, hein, parce que la position de la France peut osciller de temps à autre entre un abolitionnisme pur et dur et d'autres formes.
Mais le fond de l'abolitionnisme, c'est de dire que c'est pas ces personnes qui sont coupables, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Les personnes prostituées en France ne subissent pas le fait de se prostituer ne constitue pas un délit, par exemple. Voilà. Alors d'autres façons de faire constituent un délit. Par exemple, l'exhibitionnisme sur la voie publique qui concerne les hommes et les femmes. Enfin, on a d'autres règlements qui peuvent interférer, mais ça n'est pas la prostitution elle-même.
Jean-Luc Arnaud,
vous voulez bien compléter,
oui,
Jean-Luc.
Vous complétez, mais j'avais une question. Enfin, pardon, elle est très, comment dire, probablement très indélicate pour un sujet pareil, mais je pense qu'elle est nécessaire à poser. On entend dire parfois dans le grand public qu'il y a des femmes qui choisissent la prostitution. Donc, dans ces cas-là, elles pourraient être responsables de leurs actes. Et du coup, quid de la position abolitionniste ? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça ?
Alors, je crois que ce qui est important, c'est de dire que s'il y a plusieurs façons de considérer la prostitution pour l'ensemble des sociétés et des pays européens, mais dans l'ensemble du monde, parce qu'il y a trois grands régimes différents. Hein. Il y a l'abolitionnisme auquel on se réfère. Enfin, il faut rappeler que le titre complet, c'est abolitionnisme de la réglementation. Hein. Bon, c'est en train d'évoluer, mais abolitionnisme de la réglementation, ça veut dire qu'à un moment donné, en 1946, les législateurs ont choisi de ne prendre aucun règlement particulier par rapport à la personne qui est en situation de prostitution. Les seuls règlements et les seules législations qui ont été mises en place sont soit contre les proxénètes, soit contre des personnes en situation... Enfin, pas contre. Pour protéger des personnes en situation de vulnérabilité, il faut rappeler, y compris par rapport à ce qui venait d'être dit tout à l'heure en travail de rue par...
Le frère Charles-Antoine.
Le frère Charles-Antoine, excusez-moi. Que des personnes, par exemple, qui sont en qui se prostituent étant enceintes, les clients actuellement peuvent être pénalisés. Les clients peuvent être pénalisés pour les personnes vulnérables, déficientes.
Mais je vous repose ma question.
Voilà. Et quelle était votre question déjà ?
La question, ah bah il faut écouter.
Si, mais j'ai commencé une phrase et j'ai ce travers-là.
Non, pardon, je vous taquine. La question était la suivante, c'est qu'on entend dire parfois dans le grand public que des femmes choisissent. Donc du coup, quid de la position abolitionniste qui a l'air de les dédouaner de cette responsabilité ?
Alors ça,
qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « mais il y a des femmes qui le choisissent ».
Oui, il y a des femmes qui le choisissent, il y a des hommes qui le choisissent. Nous en connaissons qui ont ce discours-là, qui disent « mais moi, je me prostitue depuis 20 ans, 30 ans, je n'ai jamais eu de proxénète, puisque les proxénètes français ont disparu quand même depuis les années 70, quand le trafic de drogue a été plus lucratif que la prostitution. Il y a des évolutions dans le grand banditisme qui ont laissé la prostitution parce que c'était plus assez
attention
lucratif.
Attention à ne pas faire trop de digressions.
Oui. Et après, ça ne si vous voulez, la question que nous avons, c'est pas forcément de quoi les gens sont responsables et de quoi on veut les rendre responsables, c'est comment on s'adresse à elles. Et comment on peut les rendre, leur permettre d'être davantage acteurs ou actrices de leur vie et de leur permettre de prendre les décisions et de renforcer leur capacité de choix. Donc dans ce sens-là, des personnes qui nous disent, y compris au service, parce qu'elles connaissent notre position sur l'abolitionnisme, qui nous disent « mais qu'est-ce que tu me dis à moi qui suis volontairement dans la prostitution ?» On parle de ça. Et très souvent, on s'aperçoit que le « je l'ai fait, je l'ai choisi, je l'assume et tout va très bien », c'est très souvent quand même non pas une phrase de façade, parce qu'elle le pense vraiment, mais c'est des positions qui leur permettent de tenir la situation, leur situation actuelle. Très rapidement, lorsqu'on creuse, lorsqu'on prend le temps de discuter avec elles sur comment elles vivent leur prostitution, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça et que, y compris des gens qui disent y être de leur propre initiative, n'y sont pas quand même de gaieté de cœur.
Est-ce que la plupart des pays dans le monde sont abolitionnistes et ont adhéré à cette convention pour la répression de la traite des êtres humains ?
Non. On peut avoir... Alors en Europe, nous commençons à être minoritaires. L'autre courant qui prend de l'ampleur dans l'Union européenne est le courant réglementariste. Le courant réglementariste, c'est le courant qui pense que l'État, comme responsabilité par rapport à la prostitution, sa seule responsabilité, c'est de la réglementer pour en faire une activité comme une autre. Donc c'est le cas de l'Allemagne, de la Hollande.
Et donc c'est la tendance à la hausse aujourd'hui en Europe.
Oui, de plus en plus de pays sont... Alors l'Union européenne, comme dans pas mal d'autres sujets, a du mal à se coordonner sur ces questions-là. Et le courant réglementariste est un courant qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et au Conseil de l'Europe, c'est des débats assez compliqués. L'autre courant qu'il faut pas nier, qui est assez paradoxal, c'est le courant prohibitionniste, qui lui interdit l'activité prostitutionnelle. Et il faut rappeler que la Chine et la Russie, et la plupart des pays américains, des États américains, sont des pays prohibitionnistes. Ce qui donne un petit peu une mesure des effets de ce courant-là, puisque c'est des pays qui sont pourvoyeurs, justement, de personnes en situation de prostitution.
Catherine Hugonnet, alors peut-être que vous n'êtes pas dans votre rôle en répondant à cette question, mais on peut avoir du mal à comprendre, quand on ne connaît pas bien le sujet, que cette position réglementariste, c'est ça, vous dites, hein, de certains pays qui considèrent dans ces cas-là qu'il faut en faire une activité comme une autre. On imagine que derrière, c'est que en fait, la manière de lutter contre la prostitution n'est pas simple et que chacun choisit une voie plutôt qu'une autre, enfin.
Oui, certains pays réglementaristes ont fait ce choix avec un motif qui peut être louable, c'est de mieux protéger les femmes, enfin, ou les personnes en situation de prostitution. Or, certains sont en train néanmoins de revenir un peu sur leur choix antérieur parce qu'ils se rendent compte que être en établissement en toute légalité, ne veut pas dire que les victimes sont vraiment protégées. Elles subissent également des violences. Lorsqu'il y a à la tête des établissements des personnes sans scrupules, pour qui c'est un business et pour qui les femmes sont des produits et des objets.
On pense à Madame Claude, hein, qui est décédée il n'y a pas très longtemps.
Oui, alors ça, c'était en France il y a quelques années. Mais aujourd'hui, dans les pays dits réglementaristes, eh bien, certains se posent vraiment la question, et notamment avec les débats sur la responsabilisation des clients.
Alors, j'allais y venir. Alors, peut-être avant de venir à ça, dites-nous un mot du délit de racolage. Alors, si j'ai bien compris, hein, si on reprend la chronologie, en 1994 a été supprimée donc la pénalisation pour cohabitation avec des personnes prostituées et surtout la suppression donc de la pénalisation pour racolage passif qui a été réintroduite par Nicolas Sarkozy donc en 2003. Alors, on a envie de dire, c'est très compliqué, tout le monde se cherche, on essaie de trouver à chaque fois la bonne solution. Ça veut dire quoi, en fait, d'interdire le racolage passif et quel peut être l'intérêt, en fait, de cette mesure ?
Alors, Jean-Luc Arnaud. L'intérêt officiellement pour les forces de l'ordre, c'est de pouvoir réglementer, pour le coup, pour pouvoir réglementer la présence des personnes connues comme étant prostituées, qui, par le maintien sur l'espace public de façon ostentatoire, et même s'il n'y a pas d'acte de racolage envers les clients ou de proposition, comme ça peut être, enfin, de proposition de gestes à guicheur, entre guillemets, ce type de choses, peuvent être pénalisés. Donc ça veut dire que c'est une loi qui est très subjective, puisque si deux personnes attendent une troisième et ne sont pas connues comme personnes en situation de prostitution, les forces de l'ordre ne vont rien leur dire. Elles ne vont s'adresser qu'à celles qui sont connues comme personnes prostituées. Donc l'idée, c'était certainement de régler la situation dans certains espaces où il y avait beaucoup de personnes en situation de prostitution, et les forces de l'ordre manquaient d'arguments juridiques ou législatifs plutôt pour leur demander de ne pas rester sur le lieu-là. Mais c'est une loi qui a été très très très... Alors qui est de moins en moins utilisée, il faut quand même être honnête. Hein. Elle a été utilisée par moment au départ pour essayer de pacifier certaines situations qui étaient tendues. Actuellement, elle n'a jamais été très utilisée sur Toulouse. Elle a été utilisée quand il a fallu un petit peu pacifier la situation sur les allées de Barcelone. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on commençait les problèmes au boulevard de Suisse.
Alors pour finir ce tour d'horizon législatif, et puis après on rentrera vraiment dans votre travail auprès de ces personnes, et puis essayer peut-être de décrire davantage, sans voyeurisme, quelle est leur réalité de vie. Il y a aussi donc une actualité, c'est cette proposition de loi donc, qui court depuis 2013 et qui entre autres donc, pose la question de pénaliser les clients. Mmh. Alors si j'ai bien compris, c'est le cas en Suède, et alors je ne sais pas si c'est contre toute attente, en tout cas les médias ont eu l'air surpris, le Sénat a rejeté, semble-t-il, donc cette proposition de loi. On a envie de dire pourquoi. C'est vrai que vu de l'extérieur, on se dit qu'il faut se donner tous les moyens. Pourquoi ne pas pénaliser les clients? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Je ne sais pas si c'est peut-être plus vous, Jean-Luc Arnaud, ou Catherine Hugonnet.
Je vais peut-être laisser la parole à Catherine
Hugonnet.
Alors, cette proposition de loi de responsabilisation des clients et pas de pénalisation des clients, le mot est important parce que ça permet de mettre les clients, et je mets des guillemets à clients, parfois on appelle ça client prostitueur plutôt, parce que c'est la source qui amène à la prostitution, c'est la demande. Et donc, ces fameux clients... En fait, bien souvent, pas de clients, pas de prostitution. Donc, c'est un peu pour tarir la source. Et souvent, les dits clients ne se rendent pas compte des effets néfastes sur les personnes prostituées de leur acte. Ils considèrent souvent les personnes comme des produits, comme une marchandise. Ils achètent une prestation, je mets des guillemets, sexuelle. Et donc, ça, c'est sur le plan du respect de la vie humaine et de l'être humain, c'est tout à fait néfaste, puisque ces clients-là peuvent ramener tout à leur propre personne sans considérer l'autre. Donc, c'est vraiment un phénomène.
Si c'est aussi bien que vous le décrivez, qu'est-ce qui pourrait expliquer que les sénateurs aient rejeté, peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause musicale ?
Les sénateurs, comme les députés, sont à l'image de la société, c'est-à-dire que parmi eux, il doit y avoir des personnes qui ont recours à des personnes prostituées, tout simplement. Et puis les représentations, nous sommes dans une société qui a un groupe de personnes dominantes et un groupe de personnes dominées. Les dominants sont plutôt les hommes. Et ça, c'est Françoise Héritier, une grande chercheuse anthropologue, qui le dit, et bien d'autres chercheurs ethnologues, anthropologues, que nous sommes dans un monde où ce sont les hommes qui dominent et les femmes qui sont les personnes dominées. Quand on voit que la prostitution, c'est environ 80-90% de femmes, on voit bien que la majorité des personnes sont des personnes dominées pour plusieurs raisons.
Beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie Cette vie sombre laisse un sentiment amer. On vit loin du paradis et bien trop près de l'enfer. C'est si triste, toujours les mêmes à l'aise et les mêmes qui subissent dans le plus grand silence, mais il faut qu'on réagisse. Je ne perds pas espoir de voir un jour le peuple uni dans la paix, dans la joie et l'amour. J'aimerais tant qu'il cesse de régner dans la haine, si enfin il y a une justice, qu'elle intervienne. Pour les uns comme pour les autres, pour les riches comme pour les pauvres,
qu'on soit réellement libre et beau.
On rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Hey, on rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Hey.
C'est vrai que je peux pas refaire le monde, mais moi j'ai décidé positiver. Avec la foi et l'aide du ciel, un rêve peut devenir réalité. Regardons les choses en face, l'œil du mal nous menace. Il n'y a que l'amour qui pourra nous sauver. On périra par les flammes si on ne baisse pas les armes. La lumière disparaîtra sous l'obscurité. Chaque jour je me demande dans quel monde vont évoluer les prochaines générations. Je pense à nos enfants livrés à eux-mêmes face aux problèmes sans solution. Changeons le cours du temps en s'investissant et en prenant les bonnes décisions. Tous dans le même sens, dans la bonne direction.
On rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. On rêve d'une vie meilleure, plus de joie, moins de pleurs, beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Je peux pas refaire le monde, mais laisse-moi y croire. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir.
Radio Présence à Sévrac-le-Château, 102.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, ce vendredi, nous parlons donc prostitution avec cette question « Que faire ?». Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, pardon, que nous sommes avec Catherine Hugonnet, qui est directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Jean-Luc Arnaud, directeur de l'Amicale du Nid de Toulouse, et le frère Charles-Antoine Calraud, dominicain, militant au sein du mouvement du Nid. Alors, je vous redonne la parole, Catherine Hugonnet, car vous vouliez tempérer votre propos à propos des sénateurs qui, vous disiez, peut-être auraient, comment dire, fait barrage à cette loi, entre autres parce que certains auraient recours à la prostitution à l'image de société française. Et vous, on citait un chiffre à la pause, 10% des hommes en France disent avoir eu recours pendant leur vie au service d'une personne prostituée.
Catherine Nicolet. Tout à fait. 10% des hommes, en gros, ont recours à une prostituée. Donc, il n'y a aucune raison pour que, dans toutes les couches de la société, il n'y ait pas quelques cas là. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles... les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sont très longs, hein, puisque la proposition de loi date de 2013 et elle est encore en discussion. C'est le fait que le risque de responsabiliser les clients par une amende ou par un rappel à la loi ou d'autres phénomènes que ce soit, ça peut ne pas produire les effets escomptés. Un client que l'on rencontre dans la rue peut très bien dire « Mais non, moi, je n'achète pas le corps de cette femme et, a priori, pourquoi ne pas le croire ?» Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est de dire que, dans ce cas, si les clients se sentent acculés, pour ne pas être exposé publiquement en tant que client prostitueur, c'est que la prostitution se cache de plus en plus et que les femmes soient de moins en moins protégées. Il y a un tas d'arguments qui font que les débats ne sont pas aussi simples et que l'enjeu, c'est de trouver un texte qui convienne aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Parce que c'est la commission mixte qui doit statuer sur un texte. Il faut que le texte soit précis clair et qu'on en ait mesuré tous les enjeux et les impacts.
En tout cas, on a bien compris qu'en cette matière, c'est pas si simple que ça n'en paraît et que souvent, l'argument qui est avancé à toute législation un peu répressive, c'est que ça risque de cacher encore plus la prostitution, etc. Alors, je voulais maintenant essayer de mieux comprendre ce que vivent ces femmes, donc, puisque ce sont des femmes dans leur immense majorité. Je vous redonne la parole, frère Charles-Antoine Aquelraud. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous allez auprès de ces personnes, c'est-à-dire vous, avec le mouvement du Nid, où vous êtes, je sais pas, dans une camionnette à servir des cafés, à aller discuter avec elles, et peut-être pour nous aider, une fois de plus sans voyeurisme, mais à comprendre quelle réalité vivent ces femmes.
Alors, avec le mouvement du Nid, nous n'avons pas de camionnette à Toulouse. Nous retrouvons un soir par semaine ou deux soirs, parfois, et nous allons à pied arpenter les lieux de prostitution. Donc, nous faisons le trottoir à notre manière aussi. Et nous allons discuter avec toutes les personnes que nous rencontrons ou qu'on reconnaît assez facilement. On leur propose souvent, surtout en hiver, café, chocolat ou lait chaud, parfois de la nourriture, que certaines acceptent très volontiers. Certains membres militants donnent des préservatifs aussi, puisque toutes les femmes que nous rencontrons n'en ont pas, ou du moins ça représente un vrai coût pour elles, et donc elles sont contentes d'en avoir. On distribue des tracts, on leur parle de notre permanence, des activités qu'on leur propose, de l'aide qu'on peut leur donner pour des soins médicaux, pour apprendre le français, ou peut-être pour obtenir des papiers pour certaines. Et surtout, la première chose, en fait, c'est de leur montrer qu'on est là, qu'on existe, de les regarder différemment de la façon dont les gens les regardent et de les écouter, surtout si elles ont besoin de parler. Ça, c'est le gros des actions du Nid à Toulouse. Et donc après, il y a entre guillemets un suivi qui est possible par la permanence, par un contact téléphonique où on peut les aider donc à aller voir un médecin, aller voir un gynécologue, parfois les mettre en contact avec d'autres associations qui sont peut-être plus à même de les aider pour s'en sortir que nous, parce que nos moyens sont aussi parfois limités. Mais ça, c'est là les moyens concrets, les activités qu'on organise à Toulouse toutes les semaines.
Jean-Luc Arnaud, on a envie de dire que quand les associations viennent, enfin quand on croise le frère Charles-Antoine Aquelraud et qu'on est soi-même en situation de prostitution, une main tendue, on la prend tout de suite. Alors est-ce que vous pouvez nous dire dans quel monde vivent ces femmes et pourquoi en fait c'est aussi compliqué de se sortir de la prostitution ?
Alors je crois que c'est très compliqué pour elles et c'est un parcours qui est très long pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, actuellement les personnes en situation de prostitution dans l'espace public, dans la rue, sont principalement des personnes qui sont victimes de réseaux de traite. Donc n'étant pas de leur propre initiative ou de leur seule dans la décision d'y être ou de ne pas y être, c'est très compliqué pour elles de s'en échapper, de s'en éloigner. Ça demande des fois plusieurs années. Il y a aussi le fait
que elles sont tenues sous la coupe des proxénètes, en fait.
Oui, tout à fait.
Risquent quoi ? Elles risquent la mort ou
Elles risquent la mort pour elles-mêmes, pas tellement, parce que les réseaux de traite sont assez cyniques. Hein. On ne scanne pas la marchandise, entre guillemets, mais on s'en prend à leur famille.
C'est-à-dire ?
Il y a une jeune femme nigériane que nous accompagnons, qui a commencé à vouloir déposer plainte et donc à sortir des réseaux de prostitution et de la prostitution il y a quelques mois. Sa mère a été violée, sa sœur a été enlevée, son père est décédé de brutalité faite par le réseau au Nigeria, dans son village. Donc si vous voulez, c'est des réseaux internationaux qui ont des gens partout, qui communiquent par Internet, par téléphone, et donc les moyens de pression sont beaucoup plus forts sur la famille que sur elle-même. Donc ça, c'est quelque chose qui les fait énormément, qui les bloque énormément, et paradoxalement, par moment, c'est ça qui les fait réagir. Parce que à un moment donné, s'il y a une baisse de remboursement de la dette et qu'il y a une pression sur la famille qui est plus forte que d'habitude, certaines prennent conscience que ça ne va jamais s'arrêter. Donc là, ça les pousse à essayer de sortir de ces réseaux-là et de demander de l'aide soit à nous, soit à d'autres associations, soit de vouloir déposer plainte. Mais il y a aussi le fait que je crois que ces personnes-là ont beaucoup de mal à évoluer, enfin, à réorienter leur vie et leur parcours aussi parce que, en soi, c'est une activité qui isole du reste de la vie sociale, de la vie ordinaire, et que l'intérêt du travail de rue, alors nous appelons ça nous travail de rue, ou maraude, ou ce que fait le frère Charles-Antoine, c'est de rompre ou de fragiliser l'isolement dans lequel elles sont. Puisque, de fait, par la nature de l'activité et par le regard que pose la société sur la prostitution, c'est des personnes qui sont très mal considérées.
C'est des gens qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de vie sociale en dehors du monde de la prostitution, c'est
oui,
ça
Oui, oui. Très très, qui ne vont pas évoquer la question de la prostitution ailleurs, des réseaux spécialisés professionnels bienveillants, les nôtres, et pas les réseaux de traite, et qui vont avoir comme seule connaissance ou comme réseau amical des personnes qui sont dans la même situation. Donc des gens qui sont plus ou moins coupés de la société, des phénomènes, des rouages et de la société, et qui se retrouvent donc enfermés dans une situation qu'il est plus facile pour elles de continuer parfois que de fragiliser.
Alors, je disais aussi que il y a l'immense majorité de ces femmes, en fait, souvent, ont subi elles-mêmes des violences lors de leur jeunesse. Est-ce que vous corroborez cette allégation ?
Oui, quand on rentre dans leur parcours, quand on les connaît suffisamment pour les connaître et connaître leur histoire avant qu'on les rencontre. C'est la plupart des personnes ont vécu des choses très difficiles dans leur famille, dans leur milieu familial, dans leur et ça va effectivement beaucoup font état de relations familiales compliquées, de violences sexuelles, de violences parentales au sein de la famille élargie. Mais j'ai envie de dire, comme toutes les grandes problématiques, ayant travaillé longtemps en toxicomanie, c'est à peu près le même rapport. La plupart des gens qui sont dans des parcours de vie très difficiles, ça, je crois qu'il faut que les auditeurs l'entendent aussi, quelle que soit la façon dont se traduisent dans leur vie actuelle ce qu'ils montrent, la plupart de ces gens-là sont, pour des raisons extrêmement graves, dans ces parcours très difficiles, et y compris sur d'autres problématiques, c'est aussi le cas. Mais on voit un lien très direct entre les violences sexuelles, par exemple, vécues dans les familles à des âges d'enfants, avec la pratique prostitutionnelle, où par exemple, certaines prostituées disent « Mais moi, la prostitution, ça me sert à faire payer tous les hommes. C'est eux qui payent maintenant. » Donc vous voyez que... il y a des approches très paradoxales. C'est pour ça qu'il faut garder des approches un petit peu diversifiées et qui rendent compte de la complexité de leur situation.
Alors j'imagine que quand on accompagne comme ça, enfin quand on essaie de se lier à toutes ces personnes en situation de prostitution, évidemment on essaie d'offrir une présence, des conseils, enfin vous disiez même parfois des choses aussi triviales, pour elles c'est pas trivial, que des préservatifs et autres, mais on a envie qu'elles en sortent de la prostitution. Alors, comment vous vous y prenez ? Je lisais en préparant cette émission le témoignage d'une femme, donc auteure de Laurence Noël, qui semble-t-il a témoigné devant la commission de l'Assemblée nationale qui a préparé la proposition de loi dont on parle en juin 2015, et auteure de Renaître de ses hontes. Elle disait : « Il y a trois facteurs, trois déclics pour s'en sortir, pour avoir ce sursaut. C'est une rencontre positive, c'est une grossesse ou c'est la maladie. » Alors. Je ne sais pas à quel moment, et est-ce que vous pouvez nous raconter dans ces cas-là comment ça se passe, quand est-ce qu'à un moment elle saisisse une main, et dans ces cas-là, quand elle saisisse votre main, qu'est-ce qui se déclenche ?
Ce qui leur permet de bouger, entre guillemets, je crois, c'est le fait d'être considérées autrement que comme elles sont considérées le reste du temps. C'est-à-dire, autant on les rencontre parce qu'elles sont personnes en situation de prostitution, mais autant une fois qu'on les a rencontrées et qu'on commence quelque chose avec elles, c'est pas forcément quelque chose qu'on va aborder. C'est entendu, c'est su, on n'y revient pas, et on va les considérer plutôt comme des personnes qui ne sont coupables de rien, et qui sont plutôt victimes d'un ensemble de choses, dont les phénomènes sociaux, parce qu'on ne l'a pas encore abordé, c'est vrai que souvent je tiens à l'aborder, c'est que la prostitution est issue aussi quand même du fait que la société pense que les femmes sont des objets qui permettent de vendre des voitures, par exemple, et que la sexualité peut être achetée, ou peut être consommée de façon mercantile. Et ça, c'est pas nouveau. Donc, ces femmes-là ont... Enfin, je dis ces femmes-là, mais il y a aussi des hommes, évidemment.
Vous voulez dire que le fait que ça continue à être dans l'air dans la société française, ça n'aide personne, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que la pénalisation du client, elle pose la question du client, et c'est fondamental. J'y reviens un tout petit peu, je n'arrête pas de digresser. Moi, j'aurais aimé aussi, par exemple, qu'on se questionne sur le sens de la publicité et comment est organisée la publicité sur nos murs et dans nos télévisions. C'est-à-dire que pour vendre une voiture à 35 000 euros, il vaut mieux une femme en monokini que... voilà. Et ça participe au fait que les personnes pensent que tout ça n'est pas grave. les gens ne sont pas forcément dans une... Les clients, je pense, on n'en connaît pratiquement pas, hein, ne sont pas forcément dans une espèce de violence opérée, de, la plupart opérée de façon consciente, volontaire, consciente. Mais par contre, ne se rendent pas compte des dégâts effectivement qu'ils provoquent chez les personnes en les rencontrant, comme disait le frère Charles.
Quand elles prennent, donc quand elles saisissent, quand elles saisissent votre main, du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que vous leur trouvez un logement et surtout comment vous les protégez ou comment vous protégez leur famille? Alors là, ça, peut-être que vous pouvez répondre aussi, Catherine Hugonnet, des proxénètes. Mmh. Catherine Hugonnet, parce que j'imagine que la Nigérienne dont vous parliez tout à l'heure, s'il a envie de s'en sortir, qui protège sa famille au Nigeria à ce moment-là? C'est pas l'État français.
Ça, c'est une question particulièrement difficile, parce qu'effectivement, aujourd'hui, et de plus en plus avec les réflexions liées à cette proposition de loi, on protège la femme en France. Et si sa famille est en France, bien sûr, elle est prise en compte. Ensuite, avec la famille restée à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile. Ça ne peut s'opérer qu'avec des conventions bilatérales ou des conventions internationales qui prennent en compte le pays. Et parfois, ça n'est pas aussi simple que cela. Donc, c'est effectivement le point noir à la fois des acteurs sociaux et de la législation aujourd'hui dans la mise en pratique. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que sur la responsabilisation des clients, aujourd'hui, on est bien dans un schéma. La proposition de loi prévoit différents volets. Et dans ces différents volets, il y a un élément important qui est de sensibiliser toute la société à ces questions de violence, de domination, d'achat de femmes qui sont considérées comme une marchandise. Et donc, c'est un volet essentiel. Un autre volet essentiel, c'est la protection des femmes et leur accompagnement, qu'ils soient psychologiques, en matière de santé, en matière de logement, en matière d'accès à l'emploi. Hein, puisqu'on soutient une association différente des vôtres, qui a une autre position, mais qui aide aussi à faire en sorte que les femmes qui ont choisi puissent retrouver un emploi, un emploi, et pas être dans une situation de prostitution.
Frère Charles-Antoine, quel rôle? L'émission touche à sa fin. On a envie de poser une question, que surtout quand on est sur une radio chrétienne comme ça. Mon Dieu, pourquoi? J'imagine que, est-ce que ça vous monte dans le cœur? Est-ce qu'il y a des fois vous criez le soir dans votre chapelle au couvent des Dominicains en disant « Mon Dieu, pourquoi ?»
Ça participe du péché originel, je pense. C'est une des formes les plus violentes qui soit faite à la personne humaine, qui pour certaines commence très tôt, et qui de fait remonte à la nuit des temps et qu'il faudra des siècles pour combattre. Et je crois personnellement vraiment que la prostitution est une forme de l'esclavage. Il a fallu des siècles pour lutter contre. L'esclavage n'a pas disparu dans le monde, il existe toujours, hein, il n'a pas été éradiqué. Mais on a quand même fait de gros progrès depuis 2 siècles sur cette question. Il faut réussir, moralement, psychologiquement, intellectuellement, à se réveiller sur ce sujet et à réaliser qu'on est affaire à une violence énorme faite. Et il faudra du temps, parce qu'il faut changer aussi nos regards sur cette question et changer nos regards sur les personnes prostituées. Et là, je peux m'adresser à toutes les personnes chrétiennes ou plus ou moins d'ailleurs dans les auditeurs. Il y a toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés par la question et qui peuvent nous rejoindre dans l'association. Et puis tous ceux qui peuvent prier aussi pour ces personnes et qui, s'ils les croisent le soir ou en journée, peuvent essayer de changer leur regard. Ne pas les éviter, les regarder, avoir un mot aimable, dire un bonjour, ça ne leur coûtera pas grand-chose. Le Christ lui-même avait un regard différent sur ces personnes. Elles nous précèdent dans le royaume des cieux.
Merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler de ce sujet grave. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry avec l'aide d'Hélène Gazot. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.